Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous allez écouter trois enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, vous prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie, Joe Wilfried Tsonga, l'interview vérité. Écoutez l'interview avec Joe Wilfried Tsonga, un des joueurs français de tennis très connu. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse, A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, écoutez le premier enregistrement.
Joe Wilfried Tsonga, l'interview vérité. Joe, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui voudrait faire ou refaire du sport?
L'idéal, c'est de faire un peu de sport tous les jours, même 5 minutes. Aller courir 1 heure par semaine, c'est moins bien que courir 15 minutes par jour. Le mieux, c'est de se faire un petit programme. Course le lundi, abdos le mardi, piscine le mercredi, marche le jeudi, étirement le vendredi. Et le week-end, balade à vélo avec les enfants ou foot entre copains. Tout le monde a conscience que le sport est l'un des meilleurs médicaments.
Avec Sébastien Loeb, vous êtes l'un des sportifs préférés des Français. Comment expliquez-vous votre popularité?
Je me demande ce qu'on me trouve de si particulier. J'en suis fier, même si parfois la notoriété me pèse un peu. C'est tout bête, mais par exemple, si je vais au resto, je peux passer ma soirée à signer des autographes. Si je veux aller faire des longueurs dans une grande piscine, c'est à 6 heures du matin, quand il n'y a personne. Et quand je cherche un appartement, je ne peux pas donner mon nom, sinon le prix est multiplié par 2.
Vous faites assez peu de publicité par rapport à votre notoriété. C'est par choix ou vous aimeriez être plus sollicité?
C'est un choix. Et c'est aussi parce que je ne suis pas toujours disponible. Je voyage et je joue toute l'année. Alors le peu de temps libre que j'ai, j'aime autant le garder pour moi.
C'est facile de conserver votre liberté d'expression.
Honnêtement, c'est assez dur de rester spontané. Parce qu'au moindre mot de travers, on sait qu'on va être critiqué. J'aurais parfois envie de jouer 30 ans en arrière. Les joueurs étaient plus naturels sur le terrain. Aujourd'hui, le tennis, c'est psychologiquement tellement dur qu'on ne peut pas se permettre de se déconcentrer. C'est ma passion, mais c'est aussi mon travail.
Quand vous entrez sur un court, c'est toujours avec l'envie de gagner ?
Bien sûr. Gagner, ça fait partie des valeurs du sport. La réussite y est valorisée. Mais en France, quand tu réussis, la seule chose que tu gagnes, ce sont des critiques. Par exemple, je ne comprends pas les polémiques autour de l'agrandissement du stade Roland-Garros. C'est typique de notre esprit. On veut construire un stade pour une compétition qui amène beaucoup de touristes, et les Français sont contre. Il y a des obstacles.
L'Équipe Magazine estimait, dans son palmarès des revenus des sportifs, que vous aviez gagné 5,5 millions d'euros en 2012. C'est vrai ?
Oui et non. Cette somme, c'est le chiffre d'affaires qui rentre dans l'entreprise Tsonga, pas ce que je vais toucher. Je dois tout payer. Mon kinésithérapeute, mon entraîneur, l'avion deux fois par semaine, les hôtels, les cordages pour mes raquettes, qui... à l'année coûte cher. Et si je m'entraîne dur pendant 2 mois et que je me blesse la veille d'un tournoi, personne ne viendra me payer pour ma préparation. Au final, la moitié de ce que je gagne passe dans les frais. Je suis une petite entreprise à moi tout seul. C'est toute une structure, je fais travailler des gens, mais ce que je gagne, c'est grâce à mon travail dur et à la sueur de mon front.
Et c'est pour gagner plus que vous avez choisi de vivre en Suisse ?
Être en Suisse me permet de m'épanouir dans un cadre qui me plaît, tout en économisant un peu d'argent grâce à la faible fiscalité de ce pays. Mon objectif est d'essayer de tirer profit de ce que je fais pendant que je suis au top, car si demain je me blesse, mes revenus vont vraiment diminuer. Mais l'argent que je gagne n'a rien d'immoral. Maintenant, écoutez le premier enregistrement encore une fois.
Joe Wilfried Tsonga, l'interview vérité. Joe, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui voudrait faire ou refaire du sport ?
L'idéal, c'est de faire un peu de sport tous les jours, même 5 minutes. Aller courir 1 heure par semaine, c'est moins bien que courir 15 minutes par jour. Le mieux ? C'est de se faire un petit programme. Course le lundi, abdos le mardi, piscine le mercredi, marche le jeudi, étirement le vendredi. Et le week-end, balade à vélo avec les enfants ou foot entre copains. Tout le monde a conscience que le sport est l'un des meilleurs médicaments.
Avec Sébastien Loeb, vous êtes l'un des sportifs préférés des Français. Comment expliquez-vous votre popularité ?
Je me demande ce qu'on me trouve de si particulier. J'en suis fier, même si parfois la notoriété me pèse un peu. C'est tout bête, mais par exemple, si je vais au resto, je peux passer ma soirée à signer les autographes. Si je veux aller faire des longueurs dans une grande piscine, c'est à 6 heures du matin, quand il n'y a personne. Et quand je cherche un appartement, je ne peux pas donner mon nom, sinon le prix est multiplié par 2.
Vous faites assez peu de publicité par rapport à votre notoriété. C'est par choix ou vous aimeriez être plus sollicité ?
C'est un choix. Et c'est aussi parce que je ne suis pas toujours disponible. Je voyage et je joue toute l'année. Alors le peu de temps libre que j'ai, j'aime autant le garder pour moi.
C'est facile de conserver votre liberté d'expression ?
Honnêtement, c'est assez dur de rester spontané. Parce qu'au moindre mot de travers, on sait qu'on va être critiqué. J'aurais parfois envie de jouer 30 ans en arrière. Les joueurs étaient plus naturels sur le terrain. Aujourd'hui, le tennis, c'est psychologiquement tellement dur qu'on ne peut pas se permettre de se déconcentrer. C'est ma passion, mais c'est aussi mon travail.
Quand vous entrez sur un court, c'est toujours avec l'envie de gagner ?
Bien sûr. Gagner, ça fait partie des valeurs du sport. La réussite y est valorisée. Mais en France, quand tu réussis, la seule chose que tu gagnes, ce sont des critiques. Par exemple, je ne comprends pas les polémiques autour de l'agrandissement du stade Roland-Garros. C'est typique de notre esprit. On veut construire un stade pour une compétition qui amène beaucoup de touristes, et les Français sont contre. Il y a des obstacles.
L'Équipe magazine estimait, dans son palmarès des revenus des sportifs, que vous aviez gagné 5,5 millions d'euros en 2012. C'est vrai?
Oui et non. Cette somme, c'est le chiffre d'affaires qui rentre dans l'entreprise Tsonga, pas ce que je vais toucher. Je dois tout payer. Mon kinésithérapeute, mon entraîneur, l'avion deux fois par semaine, les hôtels, les cordages pour mes raquettes, qui, à l'année, coûtent cher. Et si je m'entraîne dur pendant 2 mois et que je me blesse la veille d'un tournoi, personne ne viendra me payer pour ma préparation. Au final, la moitié de ce que je gagne passe dans les frais. Je suis une petite entreprise à moi tout seul. C'est toute une structure, je fais travailler des gens, mais ce que je gagne, c'est grâce à mon travail dur et à la sueur de mon front.
Et c'est pour gagner plus que vous avez choisi de vivre en Suisse?
Être en Suisse me permet de m'épanouir dans un cadre qui me plaît, tout en économisant un peu d'argent grâce à la faible fiscalité de ce pays. Mon objectif est d'essayer de tirer profit de ce que je fais pendant que je suis au top, car si demain je me blesse, mes revenus vont vraiment diminuer. Mais l'argent que je gagne n'a rien d'immoral. Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. Et si ne rien faire était utile? Écoutez un avis sur l'utilité de la paresse apportée par le magazine Ça m'intéresse. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai, A, faux, B, ou si ce n'est pas dit dans le texte, C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement.
Et si ne rien faire était utile? Lézarder, se tourner les pouces, ne rien faire. Malgré les apparences, la paresse est une ressource utile et nécessaire. L'art de ne rien faire peut se définir de plusieurs façons. De quoi s'agit-il? Rester devant la télévision? Non, absolument pas. Aux personnes qui ne savent pas comment faire, il est conseillé de commencer modestement. Par exemple, regarder 2 minutes par la fenêtre, puis descendre 10 minutes faire une promenade dans un parc situé tout près. Cette sortie peut prendre la forme d'une marche pratiquée régulièrement, à condition de ne pas rechercher la performance. La promenade devient une activité inutile, mais essentielle, car elle nous rappelle qu'on est vivant. En oubliant notre quotidien, sans idée en tête, la marche nous apporte une force intérieure, un bien-être. Ces moments d'inactivité sont aussi conseillés aux enfants. De plus en plus de parents ont peur de voir leurs enfants s'ennuyer. Dans notre société, basée sur la concurrence, on tolère de moins en moins la paresse, parce qu'elle est considérée comme non productive. Même les jouets que possèdent les enfants doivent être pédagogiques. Dans cet état de stress permanent, il est intéressant de comparer la société occidentale à la Chine, par exemple. Les Chinois connaissent moins le stress que nous, car ils savent se ressourcer. En Chine, les espaces verts sont remplis de gens qui font du tai chi ou tout simplement la sieste. L'Occident ferait peut-être mieux de s'inspirer de leur exemple. Les études ont montré que nous ne sommes pas efficaces en début d'après-midi pour la simple raison que c'est un rythme naturel chez l'homme. Les spécialistes sont certains qu'un temps de sieste au travail augmente la créativité et la productivité des salariés, à condition de dormir environ 20 minutes. Tout comme le sommeil, il est aussi important de rêver un peu pendant son temps de travail. Le cerveau libère de la place et permet aux régions du cerveau de communiquer entre elles. Tout comme notre corps a besoin de repos, notre intellect a aussi besoin de s'arrêter de temps en temps pour se ressourcer.
Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement encore une fois.
Et si ne rien faire était utile? Lézarder, se tourner les pouces, ne rien faire. Malgré les apparences, la paresse est une ressource utile et nécessaire. L'art de ne rien faire peut se définir de plusieurs façons. De quoi s'agit-il? Rester devant la télévision? Non, absolument pas. Aux personnes qui ne savent pas comment faire, il est conseillé de commencer modestement. Par exemple, regarder 2 minutes par la fenêtre, puis descendre 10 minutes faire une promenade dans un parc situé tout près. Cette sortie peut prendre la forme d'une marche pratiquée régulièrement, à condition de ne pas rechercher la performance. La promenade devient une activité inutile, mais essentielle, car elle nous rappelle qu'on est vivant. En oubliant notre quotidien, sans idée en tête, la marche nous apporte une force intérieure, un bien-être. Ces moments d'inactivité sont aussi conseillés aux enfants. De plus en plus de parents ont peur de voir leurs enfants s'ennuyer. Dans notre société, basée sur la concurrence, on tolère de moins en moins la paresse, parce qu'elle est considérée comme non productive. Même les jouets que possèdent les enfants doivent être pédagogiques. Dans cet état de stress permanent, il est intéressant de comparer la société occidentale à la Chine, par exemple. Les Chinois connaissent moins le stress que nous, car ils savent se ressourcer. En Chine, les espaces verts sont remplis de gens qui font du tai chi ou tout simplement la sieste. L'Occident ferait peut-être mieux de s'inspirer de leur exemple. Les études ont montré que nous ne sommes pas efficaces en début d'après-midi pour la simple raison que c'est un rythme naturel chez l'homme. Les spécialistes sont certains qu'un temps de sieste au travail augmente la créativité et la productivité des salariés, à condition de dormir environ 20 minutes. Tout comme le sommeil, il est aussi important de rêver un peu pendant son temps de travail. Le cerveau libère de la place et permet aux régions du cerveau de communiquer entre elles. Tout comme notre corps a besoin de repos, notre intellect a aussi besoin de s'arrêter de temps en temps pour se ressourcer.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Troisième sous-partie, le café des bonnes nouvelles. Écoutez l'idée d'une bibliothécaire. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui la résume. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, écoutez le troisième enregistrement. Le café des bonnes nouvelles. Lisette Coiraton est une femme énergique. Elle est responsable de la bibliothèque municipale de Saint-Cyprien, qui est un village de 1500 habitants. Les clients qu'elle accueille dans sa bibliothèque sont très souvent de mauvaise humeur, voire malheureux. Rien d'étonnant. À chaque instant, l'actualité nous apporte beaucoup de mauvaises nouvelles, ce qui entretient un climat pessimiste. Ou bien, les gens sont parfois tellement pressés qu'ils ne réalisent pas leur bonheur et les petits plaisirs quotidiens. C'est pour ça que tant de personnes sont malades. Les gens ne doivent pas se laisser gagner par le pessimisme. Un jour, elle en a eu assez de remonter le moral à tous ceux qui se plaignaient autour d'elle. Pour lutter contre cette ambiance négative, elle a décidé d'ouvrir, une fois par mois, un café où l'on pourrait se retrouver régulièrement pour partager ce qui va bien. Le café des bonnes nouvelles était né. L'idée d'ouvrir un tel espace lui est venue en écoutant une émission sur France Inter. Lisette Coiraton a tout de suite eu envie de faire la même chose. En ouvrant ce café, elle a voulu permettre à chacun d'apporter des nouvelles positives pour les communiquer aux autres. Ainsi, une douzaine de personnes de tous âges se retrouvent le troisième samedi du mois, entre 10h30 et midi, dans les locaux de la bibliothèque transformés pour l'occasion en espace de rencontre. La première fois, un monsieur est venu avec sa guitare et grâce à lui, la séance a commencé par des chansons. Un autre est venu parler de sa vie passée en Chine et au Vietnam. La parole s'est libérée et chacun a témoigné dans la bonne humeur de ses voyages ou de ses expériences à l'étranger. Ces moments de rencontres amicaux sont souvent l'occasion d'échanger des recettes de cuisine, des conseils pour le jardinage, de réciter des poèmes ou des proverbes qui font du bien. Les plus gourmands apportent aussi de quoi manger. Être heureux, c'est finalement bon pour la santé. Maintenant, écoutez le troisième enregistrement encore une fois. Le café des bonnes nouvelles. Lisette Coiraton est une femme énergique. Elle est responsable de la bibliothèque municipale de Saint-Cyprien, qui est un village de 1500 habitants. Les clients qu'elle accueille dans sa bibliothèque sont très souvent de mauvaise humeur, voire malheureux. Rien d'étonnant. À chaque instant, l'actualité nous apporte beaucoup de mauvaises nouvelles, ce qui entretient un climat pessimiste. Ou bien, les gens sont parfois tellement pressés qu'ils ne réalisent pas leur bonheur et les petits plaisirs quotidiens. C'est pour ça que tant de personnes sont malades. Les gens ne doivent pas se laisser gagner par le pessimisme. Un jour, elle en a eu assez de remonter le moral à tous ceux qui se plaignaient autour d'elle. Pour lutter contre cette ambiance négative, elle a décidé d'ouvrir, une fois par mois, un café où l'on pourrait se retrouver régulièrement pour partager ce qui va bien. Le café des bonnes nouvelles était né. L'idée d'ouvrir un tel espace lui est venue en écoutant une émission sur France Inter. Lisette Coiraton a tout de suite eu envie de faire la même chose. En ouvrant ce café, elle a voulu permettre à chacun d'apporter des nouvelles positives pour les communiquer aux autres. Ainsi, une douzaine de personnes de tous âges se retrouvent le troisième samedi du mois, entre 10h30 et midi, dans les locaux de la bibliothèque transformés pour l'occasion en espace de rencontre. La première fois, un monsieur est venu avec sa guitare et grâce à lui, la séance a commencé par des chansons. Un autre est venu parler de sa vie passée en Chine et au Vietnam. La parole s'est libérée et chacun a témoigné dans la bonne humeur de ses voyages ou de ses expériences à l'étranger. Ces moments de rencontres amicaux sont souvent l'occasion d'échanger des recettes de cuisine, des conseils pour le jardinage, de réciter des poèmes ou des proverbes qui font du bien. Les plus gourmands apportent aussi de quoi manger. Être heureux, c'est finalement bon pour la santé. Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez le travail sur cette partie du test. Fin de la première partie. Le test continue à la page suivante.